Merci d'écouter RFI, les 5h30, ici à Paris, 6h30 à Bujumbura, 7h30 à Kampala. Et c'est l'heure de retrouver Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés qui reconnaît être dépassé par l'afflux de Congolais au Burundi et en Ouganda.
Des hommes, des femmes et des enfants qui ont fui ces trois derniers mois l'avancée des rebelles M23 dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Ils sont plus de 100 000, estime l'agence onusienne. Et nous ne pouvons pas répondre immédiatement à cette urgence, admet la porte-parole du HCR. Dans ce journal également, le Gabon, où le syndicaliste Jean-Rémi Yama dénonce un deux poids deux mesures. Hier, sa candidature à la présidentielle a été définitivement rejetée. Ils seront finalement 8 candidats le 12 avril prochain. Vous entendrez Kirsty Coventry, la Zimbabwéenne élue avant-hier à la tête du CIO, le Comité Olympique International. Elle est par ailleurs l'invitée de Mondial Sport ce samedi. Et dans une dizaine de minutes, le journal des sports. Avec Baptiste Leduc, on parlera de football et des victoires hier, notamment de la RDC, de l'Algérie ou encore de la Côte d'Ivoire en match de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Et on parlera aussi de boxe. On a appris cette nuit la disparition de George Foreman. L'Ouganda et le Burundi sont les deux principaux pays concernés. Depuis le début de l'année, depuis que le groupe armé M23 s'est emparé de larges pans des provinces congolaises du Nord et du Sud Kivu, notamment leur capitale Goma et Bukavu, le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés estime que plus de 100 000 habitants de la région ont fui les violences en trouvant refuge dans les pays voisins. Des combats qui se poursuivent. Les rebelles se sont par exemple emparés cette semaine de la localité de Walikale Centre. Mais la situation des réfugiés, elle, ne s'est pas arrangée et le HCR est dépassé, explique Eugene Bouyoun, porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU à Genève.
La situation dans les pays voisins est désastreuse. D'abord parce que ces deux pays ont déjà accueilli des millions de réfugiés. On peut donc constater la lourde charge qu'ils ont pour héberger et accueillir ces réfugiés. Cependant, en raison du récent manque de financement et d'une pénurie de fonds, nous ne pouvons pas répondre immédiatement à cette urgence. Cela signifie qu'un grand nombre de réfugiés qui arrivent du conflit en RDC se retrouvent dans des conditions de vie extrêmement surpeuplés avec un manque de services de base tels que l'eau, la nourriture et un toit pour se protéger. De plus, nous avons maintenant identifié 8 cas de choléra, ce qui montre que le système de santé n'est pas suffisant dans ces deux pays, augmentant ainsi le risque de propagation d'autres maladies.
La porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, jointe par Pierre Firsion. La situation de l'Est congolais, au cœur du déplacement ces derniers jours, à Brazzaville, à Kinshasa et hier à Kigali, du représentant du Congrès américain Ronnie Jackson, élu républicain du Texas et proche du président Donald Trump. Correspondance à Kigali, Lucie Mouillot.
Une visite de deux jours à Kigali où le républicain et membre du Congrès, Dr. Ronnie Jackson, s'est entretenu avec le chef d'État Paul Kagame pour discuter, selon la présidence, de la coopération en cours pour promouvoir la paix dans la région. À la tête du sous-comité de la Chambre des représentants sur le renseignement et les opérations spéciales, l'ancien médecin de la Maison-Blanche et contre-amiral de la marine à la retraite a également rencontré deux figures de l'appareil sécuritaire rwandais, le ministre de la Défense Juvenal Marizamunda et le secrétaire général des services de renseignement, Aimable Avoudjiaremye. Une visite qui se déroule quelques jours seulement après un premier déplacement à Kinshasa où le conflit à l'est de la RDC était au cœur des discussions. Ronnie Jackson s'est entretenu avec les leaders religieux mais aussi avec le chef d'État Félix Tshisekedi où il a affirmé, selon la présidence, vouloir travailler pour que la paix revienne dans le pays et que les entreprises américaines puissent venir investir en RDC. Un message émis alors qu'un partenariat minier est actuellement en discussion avec les États-Unis. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Et toujours à propos de la RDC, on apprend que l'homme d'affaires indien Harish Jagtani est depuis lundi entre les mains du Conseil national de cyberdéfense, interrogé d'après nos informations sur l'obtention de certains marchés publics sous la présidence de Joseph Kabila. RFI 6h34 à Khartoum, au Soudan. Le président veut que les FSR du général Hemeti rendent les armes avant toute négociation. Déclaration hier donc du président de la transition soudanaise. soudanaise, le général Al-Burhan, alors que ses soldats ont réussi à reprendre hier le contrôle du palais présidentiel à Khartoum et que globalement, ils sont depuis plusieurs semaines à l'offensive. Ils ont la main haute en ce moment face aux paramilitaires de l'ex numéro 2 de la transition soudanaise. Notez tout de même qu'hier, quelques heures après l'annonce de la reprise du palais présidentiel, au moins 3 journalistes y ont été tués par une attaque de drone opérée par les FSR. Au Gabon, la liste est désormais définitive et ils seront finalement 8 candidats à l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain et censée mettre fin à la période de transition. 8, les 4 déjà validés par le ministère de l'Intérieur et 4 autres repêchés hier par la Cour constitutionnelle à Libreville après examen de leur recours. Et parmi les recalés, il y a le syndicaliste Jean-Rémy Yama qui dénonce une décision injuste. Correspondance d'Yves-Laurent Goma.
Le syndicaliste Jean-Rémy Yama était pressenti pour être l'un des poids lourds de la course à la présidentielle. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas validé sa candidature. Il explique avoir pourtant fourni l'acte de naissance de sa mère qui manquait dans son dossier.
Il y a deux poids, deux mesures. Un moment, le président de la Cour disait « Ici, nous ne sommes pas là pour recevoir les compléments de dossier. » Mais il y a des candidats qui ont fait des compléments de dossier. Ma candidature gêne, mais je ne sais pas pourquoi.
Parmi les 4 nouveaux repêchés, Alain Simplice Bongo, ancien député et au cadre de l'administration.
Le 30 août, les militaires ont libéré le pays. Moi, je vais donc le délivrer des démons des coupures d'électricité, de l'absence d'eau, des routes défectueuses et d'un système de santé décadent.
Sont également repêchés 2 candidats à la présidentielle de 2023, Yvon-Michel Ngoma et Axel Stophen Ibinga Ibinga. Ce dernier assure vouloir sortir le Gabon de la léthargie.
C'est une occasion pour moi de me lever à nouveau et de présenter aux Gabonais mon offre politique, de nommer l'arbitre au travail. Et pour ça, il faut une alternative crédible et ambitieuse, et nous la portons.
Dernière candidature retenue, celle de Channing Zenabaninga. Elle sera l'unique femme parmi les 8 candidats. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Dans l'actualité des pays africains, ce matin également, le Niger, un deuil de 3 jours débute ce matin et le gouvernement reconnaît que 44 civils au moins ont été tués hier vendredi lors d'une attaque menée par les hommes d'un groupe djihadiste dans la région des 3 frontières dans le sud-ouest du Niger. Le ministère de l'Intérieur met en cause le groupe État islamique. La Guinée et la justice guinéenne qui confirment l'inculpation à venir de l'opposant Seloud Alain Diallo, le président du parti UFDG, accusé de corruption, de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et d'enrichissement illicite. En fait, il est mis en cause pour son rôle dans l'affaire dite Air Guinée, c'est-à-dire la vente d'appareils de la compagnie aérienne nationale au moment où Seloud Alain Diallo était ministre des Travaux publics et des Transports.
RFI.
Les félicitations ont continué d'affluer hier pour Kirsty Coventry, la ministre des Sports du Zimbabwe, première femme et première africaine élue avant-hier à la tête du CIO, le Comité international olympique. Félicitations par exemple du président zimbabwéen, des dirigeants de la fédération de football ou encore du comité olympique local. Et si certains pointent l'état de délabrement du secteur des sports dans son propre pays, où par exemple l'équipe nationale de football ne peut plus jouer à domicile faute de stade aux normes. La nouvelle présidente du CIO s'est dit hier impatiente de pouvoir promouvoir le sport et les sportifs du continent africain.
L'Union africaine en particulier, ainsi que les chefs d'État des pays africains ces dernières années, ont accordé beaucoup plus d'importance au rôle que le sport peut jouer dans la construction de communautés, dans la réduction des coûts des soins de santé. Et j'espère qu'on pourra exploiter ces idées et les faire progresser, tout en montrant que les athlètes sont des membres très importants de la société. Ils apportent l'inspiration, ils apportent l'espoir. Donc on va pouvoir prendre soin de nos athlètes, les soutenir, s'assurer qu'ils ont les bonnes infrastructures. Ce sont tous les messages et toutes les conversations que j'ai hâte d'avoir avec le continent africain sur la façon dont nous pouvons continuer à renforcer tous ces axes afin que nos athlètes puissent vivre, s'entraîner et réussir de chez eux.
Kirsty Coventry, la nouvelle présidente du Comité olympique international, qui sera, notez-le, l'invité de Mondial Sport. Rendez-vous cet après-midi à 17h10, heure de Paris, 16h10, temps universel. Des femmes de pouvoir qui étaient aussi à l'honneur hier soir à Abidjan, sur les planches de l'Institut français, où la conteuse Floppy Mendoza a présenté son spectacle « Voix des héroïnes africaines », en l'occurrence trois reines ouest-africaines d'avant la colonisation du continent. Reportage de Marine Jeanne.
Pour son spectacle, la conteuse ivoirienne Floppy Mendoza invoque les figures de trois reines africaines à la destinée remarquable, dont l'histoire, qui s'est perpétuée par les contes et les légendes, est aujourd'hui menacée.
Le conteur, il est mieux placé pour pouvoir raconter ces histoires qui tombent déjà dans les oubliettes. Les enfants naissent, ils vont entendre parler de Batman, de Superman et tout. Si en tant que conteur, nous n'arrivons pas à valoriser nos héros et héroïnes africains, personne ne le fera à notre place. Et moi, étant femme, j'ai été vraiment touchée par les valeurs de ces femmes-là. Tassi Ongbe du Bénin, Yenenga du Burkina Faso et puis Ablapoku de la Côte d'Ivoire.
Construit autour du conte, ce spectacle pluridisciplinaire intègre de la danse, de la musique et du chant. Il commence par l'histoire de Tassi Yangbe qui régna 3 ans au XVIIIe siècle sur le royaume du Dahomey après avoir remplacé au pied levé son frère jumeau, mort à la veille d'une bataille décisive.
Personne ne pouvait imaginer que celui qui était à la tête de cette grande bataille n'était pas un homme, mais une femme. Yangbe devient donc la première reine du Dahomey, innovatrice, audacieuse. Elle s'entoura d'une armée exclusivement féminine. Les célèbres Amazones du Dahomey.
Une seule représentation est prévue à Abidjan pour le moment, mais Floppy Mendoza espère pouvoir monter à nouveau son spectacle en Côte d'Ivoire et à l'international pour garder intact ses mythes fondateurs. Marine Jeannin, Abidjan, RFI.
Abidjan, il est 4h41.
Afrique Matin sur RFI.
5h41 ici à Paris, à suivre dans Afrique Matin. Reportage à Berberati en Centrafrique, deuxième épisode de notre série consacrée à cette ville du sud-ouest centrafricain, à 500 km de Bangui. Les routes sont en mauvais état, mais des jeunes de la ville prennent sur eux pour les réparer. On parlera aussi du